Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la situation générale de Paul. J'ai évoqué la chronologie de Paul et puis j'ai terminé brièvement sur Corinthe. Je vais revenir un petit peu sur la situation de Corinthe. J'ai évoqué en particulier la situation géographique, tout à fait particulière, à l'entrée de ce qu'aujourd'hui on appelle le Péloponnèse, mais qui est à l'époque était la province d'Achaïe. La ville de Corinthe, je vous dis, n'est pas un port, mais elle est entre deux ports. Alors à l'ouest, il y a un port et à l'est, il y a un autre port. Et peu importe, les noms, c'est Sancré et Lacéum. C'est aussi donc une ville qui a, je vous l'avais dit tout à l'heure, une industrie en particulier du bronze. Et c'est une ville qui est une ville aussi avec une très grande importance politique. Corinthe est la métropole de cette province d'Achaïe. Donc, j'ai situé là dans le sud, c'est la métropole. Et elle est le siège d'un proconsulat romain. C'est d'ailleurs pour cela qu'on nous parlera en acte 18 du proconsul Gallion. C'est une ville qui a compté jusqu'à 130 000 habitants. À l'époque la plus florissante, avant qu'elle ne soit détruite par Rome au deuxième siècle avant notre ère, et puis reconstruite au milieu du premier siècle. Donc elle a compté jusqu'à 130 000 habitants, et à l'époque de Paul, on pense qu'elle avait environ cette population-là. C'est quand même, pour l'époque, une métropole donc extrêmement importante. La vie qu'on y mène, c'est un mélange gréco-latin. Alors on parle le grec, et puis la langue, l'architecture aussi est grecque, et la vie culturelle, c'est le latin. Alors c'est là que Corinthe se signale aussi, malheureusement, parce que le mot culturel est sûrement un grand mot pour parler de la qualité de la vie à Corinthe. On s'y plaît beaucoup au combat de gladiateurs, dans un écrit, La vie d'Apollonius de Tyane, un auteur de l'époque, Philostrate, je vous le lis, rapporte qu'un certain Bassus, philosophe et président des Jeux Ismiques. Alors vous connaissez peut-être les Jeux Olympiques, mais à l'époque il y avait aussi les Jeux Ismiques, comme son anglisme de Corinthe. Président des Jeux Ismiques, donc une personnalité de l'époque, Bassus, était connu pour avoir tué ses parents et qu'il avait donné sa femme en pâture à un certain Praxitèle pour qu'il assassine Apollonius. Donc comme cadeau pour un assassin, il donnait sa femme. C'est à l'époque de Paul, ça. Voilà, c'était Bassus, le président des Jeux Ismiques. Donc c'est vous dire que quand je parle de niveau culturel, c'est quand même très mélangé. Hein. Donc c'est une ville prospère, riche, avec aussi beaucoup un mélange de... et un niveau de moralité qui n'est pas terrible. C'est aussi un grand mélange de cultes. Alors c'est vrai, on pense à Athènes en parlant des cultes, en particulier à cause du discours des Actes au chapitre 17. Vous savez, quand Paul arrive à Athènes, il dit « Vous avez même bâti des hôtels aux dieux inconnus pour vous prémunir si jamais il fallait s'adresser à des dieux que nous ne connaissons pas. » Donc on sait déjà qu'à Athènes, il y avait une multitude de sanctuaires, mais c'était vrai aussi à Corinthe. Donc il y avait les cultes grecs, mais aussi le culte impérial. Alors, grec, Apollon, Athéna, Aphrodite, Déméter, etc. Bon, enfin, vous avez une abondance de dieux grecs, donc on peut avoir une abondance aussi de sanctuaires et d'hôtels. Culte impérial, culte égyptien, à Isis et Sérapis. Et puis, donc, il y a aussi le culte juif. C'est une Corinthe, je veux brusquer personne, mais enfin, de temps en temps, quand j'essaie de m'imaginer Corinthe, je ne sais pas pourquoi, j'imagine Marseille. Marseille est sûrement beaucoup plus élevé culturellement que Corinthe. Hein. Je ne veux pas du tout blesser les Marseillais. Mais je veux dire, ça a ce côté portuaire, mélangé. Il y a des Marseillais là, je sens. Hein. Non, mais vous voyez, ce côté très mélangé, très bigarré de population, des niveaux très différents. Bon, voilà, ça c'est le... C'est un peu la caractéristique plus généralement des ports hein, aussi. Hein. C'est pas... Alors, voilà, Marseille c'est tout à fait autre chose, mais enfin, bon, ça me permet d'évoquer les ports. Ça me permet d'évoquer les ports. Bon, voilà, donc c'est dans ce monde-là que pénètre Paul et qu'il va travailler évangéliser. Donc, on vous l'a dit, c'est avec Priscille et Aquila au départ. Et donc, simplement en exerçant le métier de fabricant de tentes. Quand est-ce que, une fois que je vous dis ça, bon, c'est tout le monde au plan géographique, économique et entre guillemets culturel. Et finalement, ce que je ne vous ai pas dit, c'est quand est-ce que Paul écrit. Quand est-ce que Paul écrit? Puisqu'il a écrit beaucoup, je vous le disais tout à l'heure, à plusieurs reprises, on a plusieurs lettres. Et qu'en est-il donc des lettres aux Corinthiens? Alors c'est difficile pour essayer de situer les lettres, d'évoquer l'une sans l'autre. Que nous dit Paul dans sa lettre? Dans la première aux Corinthiens, à la fin, au chapitre 16, versets 8 et 9, il nous dit « Toutefois, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte y est ouverte toute grande à mon activité, et les adversaires sont nombreux. » Déjà, nous avons une précision importante, la lettre a été écrite d'Éphèse. « Toutefois, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. » Quant au moment de l'année, on peut l'imaginer grâce au chapitre 5, bon, il nous dit « Je vais rester jusqu'à la Pentecôte. » Donc, c'est avant la Pentecôte. Je l'écris. Alors certains auteurs sont plus précis, remarquant en effet qu'au chapitre 5, Paul évoque, semble-t-il, la Pâque, ils nous disent, il a certainement écrit juste après Pâque. En effet, voilà ce qu'il nous est dit au chapitre 5, verset 6 et suivant. « Il n'y a pas de quoi vous glorifier, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azymes, car notre Pâque, le Christ, a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des azymes de pureté et de vérité. » Donc il ressort de ce passage que Paul a écrit sans doute peu après Pâques. Peu après Pâques, avant la Pentecôte, oui, mais de quelle année? Ah ben là, il ne nous dit pas, parce qu'il a la mauvaise habitude de ne pas commencer ses lettres en disant « j'écris tel jour de l'année », comme on fait aujourd'hui. Alors, il est à Éphèse. On sait, d'après les actes, enfin, encore une fois, je dis, il faut faire quand même confiance aux actes, qu'il est parti à Éphèse, il est passé à Éphèse lors de son troisième voyage. Ça se trouve, ça, au chapitre 19 et 20 des actes. Il y a même marqué « Fondation de l'église d'Éphèse » dans la Bible, au chapitre 19. Et puis ensuite, au chapitre 20, on lui dit « Paul quitte Éphèse ». Bon, alors, il n'est pas du tout sûr que ce soit Paul qui ait fondé la communauté d'Éphèse, malgré ce que dit le chapitre 19. Parce qu'il y a deux... À l'intérieur même des actes, il y a des contradictions. Moi, je ne rentre pas là-dedans parce que je ne fais pas une étude sur les actes. Bon, mais enfin, on sait qu'il y a passé, donc là, Luc nous le dit de plusieurs manières, au moins 2 ans, ça va, et il change hein, aussi, selon le chapitre 19 ou le chapitre 21, et vous n'avez pas les mêmes remarques, bon. Mais il y a passé au moins 2 ans, et un peu plus de 2 ans, parce qu'il nous dit 2 ans et 3 mois, bon, c'est un peu variable. Donc en tout cas, il a passé au moins 2 ans à Éphèse au cours de son troisième voyage. Le troisième voyage, il a dû commencer en l'année 53. Bon, il n'est pas passé tout de suite à Éphèse, il faut le temps qu'il monte jusque de nouveau dans le sud de la Turquie. Bon, on peut penser qu'il était à Éphèse entre 54 et 56, au moins, entre 54 et 56. Mais qu'est-ce que cela nous donne maintenant si je reviens à ce chapitre 16 de la première lettre aux Corinthiens? Toutefois, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte est ouverte toute grande à mon activité, et les adversaires sont nombreux. Est-ce que cela veut dire que si Paul écrit en disant « je vais rester jusqu'à Pentecôte, ensuite je vais partir », donc ça voudrait dire qu'il va quitter Éphèse? Est-ce que ça veut dire qu'il est à la fin de son séjour? Toutefois, je resterai fait jusqu'à Pentecôte, d'ici que j'ai plus longtemps, je resterai. Ou bien ça veut dire, au contraire, qu'il était encore au début. Pourquoi? C'est bizarre. Toutefois, je resterai fait jusqu'à la Pentecôte, ça veut dire, ben, parce qu'après, je quitte Éphèse, donc c'est la fin du séjour. Pas nécessairement. Parce que vous pouvez parfaitement penser qu'il a écrit au début, il avait le projet de quitter Éphèse, et il ne l'a pas fait. Mon intention, lorsque j'écris, c'est de quitter Éphèse après la Pentecôte. Mais ce que vous ne savez pas, c'est ce qui a pu se passer après. Après, il a pu se passer qu'il est resté à Éphèse, plus qu'il ne l'avait pensé au départ quand il écrit. Donc, ces versets 8 et 9, si on les regarde de près, ne sont pas, là encore une fois, d'une précision absolue. Il laisse entendre que Paul est à la fin de son séjour, mais ce n'est pas une nécessité, contrairement à ce qu'écrivent certains commentateurs, parce qu'il a pu écrire alors qu'il avait le projet de partir et qu'il y est resté. Surtout qu'il dit, c'est presque contradictoire, une porte y est ouverte toute grande à mon activité. C'est comme si on a l'impression que c'est là, au contraire, on a l'impression que c'est le début d'après ce mot-là. Une porte y est ouverte toute grande à mon activité. C'est comme s'il n'avait encore rien fait. Donc, vous voyez, c'est verset 8-9, c'est un peu délicat. Alors il faut se tourner vers d'autres choses, pour être un peu plus précis à mon avis. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un peu complexe. Mais Ce qui est sûr, c'est que Paul a organisé à Corinthe une collecte. Il l'évoque au début du chapitre 16. Quant à la collecte en faveur des saints, suivez vous aussi les instructions que j'ai données aux églises de Galatie. Cette collecte, elle est évoquée à nouveau dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 8 et 9. Et dans la deuxième aux Corinthiens, il évoque la collecte dont je vous ai parlé l'an passé. Bon. Ici, c'est « Quant à la collecte en faveur des saints, suivez vous aussi les instructions. » Il semble bien que cette collecte soit un peu à son début. Donc c'est un élément de plus pour penser que Paul l'écrit non pas à la fin de son séjour à Éphèse, mais plutôt dans les débuts. Bref, un certain nombre d'éléments militent, mais encore une fois, je veux dire, on ne peut pas être absolument précis, on est rarement en exégèse, parce que sur ces questions-là, c'est assez difficile, il y a toujours on manque d'informations précises. Bref, on est plutôt enclin à penser que Paul écrit au début, relatif début de son passage à Éphèse, ce qui situerait la lettre autour de l'année 55. J'ai dit qu'il était entre 54 et 56 à Éphèse, parce qu'il faut laisser aussi de la place pour la deuxième aux Corinthiens, pour la continuation de la collecte, etc. Donc je vous propose, sous toute réserve, une date autour de l'année 55, pour les raisons que j'ai dites. Hein. C'est les versets que je vous ai cités. Après, il y a la question de la collecte, c'est une chose difficile à préciser. On est toujours sur un chemin de crête, hein, dans ces questions-là. Donc voilà pour la situation de la première lettre aux Corinthiens. Bon, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est là qu'il manque les feuilles que j'avais préparées. Enfin, la petite feuille, bon. Où est-ce qu'elle est passée? Elle a dû tomber en route, j'ai l'impression. Bon, alors, maintenant que je vous ai situé tout le contexte, il faudrait que j'évoque la composition un peu de cet écrit. Je vais redire certaines choses que j'ai peut-être déjà dites dans l'année quand j'étais venu ici, je ne sais plus, ça ne fait rien. On parle donc de la première lettre aux Corinthiens. Ce qui suppose donc, je veux dire une tautologie, que c'est une lettre. Mais voilà, en quoi une lettre est-elle une lettre? Donc ce sont évidemment, il faut faire référence à un certain nombre de critères formels, de forme. Qu'est-ce qui fait qu'une lettre est une lettre aussi à cette époque? Parce que les lettres de l'époque ne sont peut-être pas exactement de la même forme que les lettres que nous faisons aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qui fait qu'une lettre est une lettre? Il y a un certain nombre quand même d'éléments formels. En l'occurrence, un ou des expéditeurs. Aujourd'hui, nous on dirait je mets une date. Non, là, vous savez, il n'y en a pas. Bon, alors déjà, c'est... Bon, expéditeurs, ça, on continue à faire pareil, mais on met d'abord souvent le destinataire. Eux commencent généralement par l'expéditeur. Moi, Paul, je vous écris à vous qui. Bon. Donc, l'expéditeur, les destinataires, des vœux. Souvent, ça sert à Paul pour faire une sorte de... qu'on appelle, excusez-moi, c'est le titre latin, captatio benevolentiae, on essaie de capter la bienveillance des expéditeurs, des destinataires, pardon, en leur rappelant, tu te souviens, quand on était ensemble sur le bord de la mer et qu'on prenait un bain de soleil, bon, vous voyez, ça c'est pour créer la familiarité. Donc c'est ce qu'on appelle la captatio benevolentiae. Ça peut être utile à Paul. Par exemple, quand il écrit aux Romains, il ne connaît pas la communauté de Rome, il n'y est jamais allé. Donc, en quelque sorte, se les familiariser, quoi. Donc, il le fait dans Romain, c'est une forme de captatio benevolentiae. Alors, ça peut être aussi, vous qui êtes si réputé parce que vous êtes des gens merveilleux, etc., etc. Bon, ça, c'est aussi une captatio benevolentiae. Oui, tout ça, c'est tous les moyens de s'attirer les bonnes grâces, comme on dit aujourd'hui, des destinataires. Donc, il y a des vœux, quelques rappels. En général, je commence d'abord à exprimer par les rappels, ensuite quelques vœux, j'espère que vous vous portez bien, que... voilà. Bon, ensuite, dans le corps de la lettre, ce qu'on appelle le corps, bon, il y a l'enjeu, l'objet. Alors, des lettres, il y en a toutes sortes, on les a classées, il y a des classements qui ont été faits, bon. Pourquoi je vous écris? Voilà l'enjeu. Bon, alors en général, dans les lettres d'époque, c'est très court, puisqu'on n'a pas, on n'écrit pas sur des feuilles comme nous, et c'est assez compliqué, donc c'est très court. Alors, je veux redire le droit que j'ai dû vous citer en dernier sur ce sujet. Bon, donc, je voudrais que tu accueilles un tel. Par exemple, ça peut faire l'objet d'une lettre. Et puis, il y a donc à la fin des salutations diverses et de nouveaux des vœux. En général, je vous dis c'est très court. Alors, rappelle, c'est le livre qui est très bien fait, vraiment, qui est bien plus qu'un petit livre, c'est sympathique. Quand on est un peu fatigué comme moi. Monsieur Connor, c'est un frère d'un des frères dominicains qui est à Jérusalem. J'aime bien votre tableau parce qu'on y a mis une grille pour être sûr que les frères écrivent à peu près droit. Excusez-moi, je parle. Voilà. C'est un petit ouvrage qui fait 120 pages, quelque chose comme ça, pas beaucoup plus. Qui dit à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la manière dont on écrivait à l'époque, les moyens qu'on utilisait, la forme, toutes ces petites choses-là. Il est en même temps assez polémique sur certains points, mais bien fait. C'est un merveilleux petit ouvrage, facile à lire, extrêmement agréable. Donc c'est un bel ouvrage, il a fait vraiment quelque chose de bien. Enfin, Murphy O'Connor fait souvent des choses bien. Donc, voilà, donc les lettres sont courtes à l'époque, c'est des billets, hein. On fait passer plutôt des billets. Donc vous voyez que, de ce point de vue, la première lettre aux Corinthiens a tous les éléments d'une lettre. Paul, le expéditeur, appelé à être apôtre, j'y reviendrai, tout ça, et Sostène, deuxième expéditeur, le frère, à l'église de Dieu établie à Corinthe, destinataire, appelé à être saint avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom du Seigneur Jésus, Christ, notre Seigneur, le leur et le nôtre, etc. Donc, situation des destinataires. À vous, grâce et paix, de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ. Les vœux. Ensuite, je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet. C'est ce que j'ai appelé la captatio benevolentiae. Là, on leur met un peu de crème sur le dos. Et puis, nous avons, le corps du texte sur lequel on reviendra. Et puis, on arrive au chapitre 16, où il y a donc les recommandations et salutations. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, soyez forts, j'espère qu'il n'y a pas trop de femmes là dans cette communauté, pourtant il y en a. Que tout se passe chez vous dans la charité, encore une recommandation aux frères, etc. Et puis, les églises vous saluent, vous saluent bien, tous les frères vous saluent, saluez-vous les uns les autres, la salutation est de ma mère à moi, Paul. Donc, même c'est toutes les allonnettes. La particularité, j'ai glissé par-dessus un instant, la particularité, c'est que le corps de texte est infiniment long par rapport à toutes les lettres de l'époque. Normalement, quand on écrivait brièvement, et je veux dire, avec quelques recommandations, et juste pour demander un service, et mais ici, c'est pas ce qu'on a. C'est de fait assez frappant. On a d'autres lettres de ce type, un peu longues, mais c'est quand même une caractéristique assez particulière de constater que la longueur des lettres de Paul. Nous, ça nous paraît presque normal, encore que je ne sais pas si vous écrivez 16 chapitres à tous vos amis tous les jours, mais c'est quand même assez consistant quand même. Bon, d'ailleurs, il s'en plaindrait peut-être. Mais là, on ne sait pas comment, si la communauté s'en plaint pas trop non plus. Alors, en tout cas, donc c'est incontestablement une caractéristique tout à fait singulière, que la longueur des lettres. La plus proche des lettres de l'époque de Paul, c'est Philémon. Philémon, il n'y a même pas un chapitre. Enfin, un chapitre. Bon, et voilà. Ça, c'est tout à fait caractéristique des lettres de l'époque, Philémon. Alors là aussi, vous pouvez aller voir Philémon, je ne reprends pas, les expéditeurs, les destinataires, le service à demander. Voilà, ça c'est la lettre type de l'époque. Ça tient pas dans une poche, je ne sais pas comment il le promenait d'ailleurs, mais enfin bon, c'était souvent écrit sur des tessons, des choses comme ça. Hein. Donc c'est très court, mais c'est Philémon. Philémon, c'est la vraie lettre de l'époque, la plus courante. Donc un Corinthien, vous voyez, c'est quand même, de par sa consistance, assez différent. Alors on le constate, hein, c'est un constat. Donc on est obligé de dire que les lettres de Paul forment une sorte de genre littéraire un peu particulier. Alors ce qui s'en rapproche aujourd'hui, eh bien ce sont les encycliques, figurez-vous. C'est un peu ça. Les encycliques, c'est au moins aussi consistant, même parfois on en a encore plus. En bas, on n'a pas ce chapitre pour en avoir 30. Bon, mais c'est un peu le même principe. Les encycliques, elles se présentent avec le pape qui écrit, et puis il y a des salutations, il y a tout ça aussi, je vous en perdrai un peu. Donc, mais c'est vrai que les encycliques à l'époque, on ne connaissait pas beaucoup. Bon. Donc c'est un peu ça. On est dans un genre littéral particulier. Moi, j'en parle comme de... On est obligé. Quand on dit simplement lettres, normalement, on doit penser au billet à Philémon. Donc ce genre de lettres, j'appelle ça des lettres apostoliques, des lettres d'apôtres. Bon, mais vous voyez que c'est un peu particulier. Quand on désosse, entre guillemets, quand on désosse la deuxième lettre aux Corinthiens, je vous ai dit qu'avec peut-être le chapitre 9, qui est un peu particulier, le chapitre 9 de la deuxième aux Corinthiens, a aussi le type de lettre, à lui tout seul. Et c'est pour ça que c'est peut-être pas étonnant de se dire qu'on peut mettre à l'écart le chapitre 9 simplement. Je ne fais pas de Corinthiens là aujourd'hui, mais bon, il y a cette dimension de lettre qui est présente. Et c'est assez conforme à ce qu'on peut trouver habituellement. Bon, bon, enfin, c'est comme ça. On a une lettre, et on continue à appeler sa lettre, on a raison de le faire. Donc, à propos de 1 Corinthiens. Comment s'organise une lettre? Et comment s'organise en partie une lettre de Paul, a priori? Jusqu'à il y a plusieurs années, on pensait volontiers que, ben voilà, que les lettres de Paul, c'était d'abord et avant tout des lettres. Donc, avec ce principe des lettres, qui est qu'on écrit sur plusieurs sujets à propos de questions qui ont été posées, de choses comme ça. À certains moments, certains commentateurs, d'ailleurs je parle du début du XXe siècle, ont dit, mais certaines lettres, c'est pas vraiment des lettres. Ce sont des traités théologiques. On a dit ça à propos de Romains en particulier, la lettre aux Romains. Alors c'est assez différent, parce que si c'est un traité de théologie, ça ne s'organise pas de la même manière. C'est construit. C'est la grande différence. Un traité, il est construit. Une lettre, il y a une dimension occasionnelle, opportuniste, je ne sais pas comment dire. Bon. Aujourd'hui, on est passé, mais il y a des cycles en exégèse, aujourd'hui, on est passé dans un nouveau cycle. J'attends qu'il se termine, mais il n'est pas encore terminé. Donc, il a une vingtaine d'années, ce cycle-là. Vous comprenez, c'est un problème, c'est que je vieillis, il faudrait vite que ça change avant que je ne disparaisse. Mais ce cycle, alors, actuellement, il est caractérisé, ça a été évoqué la dernière fois, par une volonté de voir dans toutes ces lettres une dimension oratoire extrêmement marquée. Donc on vous dit ce sont des lettres d'accord, mais en même temps ce sont des lettres marquées par une attention particulière au style et à la démonstration. Donc c'est déjà aussi très constant. Alors pourquoi on vous dit ça? On vous dit ça parce qu'on connaît des traités oratoires de l'époque, en particulier celui d'un certain Catilien, et qui explique comment il faut écrire, en quelque sorte. Il y a des canons d'écriture, il faut respecter certaines règles, certains usages. Explique justement Quintilien. Alors, personne ne se préoccupait de ça il y a 20 ans, et aujourd'hui tout le monde ne fait plus que s'occuper de ça. Donc, ça a commencé avec l'étude de la lettre aux Galates, dont on a remarqué qu'elle correspondait dans son développement aux recommandations faites par Quintilien. J'ai pas de problème pour la lettre aux Galates. C'est assez vrai qu'elle a une manière. Pourquoi j'ai pas de problème pour la lettre aux Galates? Parce que la lettre aux Galates, c'est vrai que c'est une défense. Ça commence d'ailleurs terrible, à peine Paul a-t-il salué, qui dit « Et vous vous écartez, etc. » Bon, c'est une attaque en règle, il y a une défense. Bon, il y a toute une dimension extrêmement vive, extrêmement personnelle. Et c'est vrai que la lettre aux Galates, même si c'est une lettre, a une dimension construite au plan oratoire. Là où ça se gâte, à mon avis, c'est que ce qui est vrai de la lettre aux Galates n'est pas nécessairement vrai de toutes les autres lettres. C'est vrai que Galates, encore une fois, je vous dis, pour des raisons très précises, ponctuelles, il y a une attaque, il y a une défense, Paul argumente, la question de savoir s'il faut revenir aux usages juifs, etc. Donc il y a toute cette dimension extrêmement polémique qu'on connaît bien dans la lettre aux Galates. Mais je ne vois pas pourquoi cette dimension oratoire est absolument... qui est certainement vrai, à mon avis, pour la lettre aux Galates, doit l'être aussi pour toutes les autres lettres de Paul. Or, aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'écrire sur ce sujet si on ne fait pas référence à l'art oratoire de Quintilien pour toutes les lettres de Paul. Donc, c'est extrêmement précis, cet art oratoire. C'est là que j'avais des éléments que je vous apporterai peut-être demain, concernant cet art oratoire, et qui permet, semble-t-il, d'organiser les lettres. Alors, pour ma part, reste très réticent, parce que les phénomènes de mode, j'y résiste. Il me semble que, d'abord et avant tout, première lettre aux Corinthiens est une lettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a cette dimension de bavardage, un peu. Si vous écrivez une lettre, vous allez dire, il fait beau aujourd'hui, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit chez nous. Il fait beau aujourd'hui, bon, c'est très occasionnel. Si vous faites une argumentation, vous ne direz pas, il fait beau aujourd'hui, parce que ça ne fait pas avancer l'argumentation. Vous voyez ce que je veux dire, dimension occasionnelle. Vous allez faire des références à des choses occasionnelles de la vie, parce que c'est une lettre. Vous bavardez familièrement. Bon, donc je prétends que la première lettre de Corinthiens est d'abord et avant tout une lettre. Alors en plus, j'en ai quelques éléments. Chapitre 7, début du chapitre 7, c'est ça en frappant à la manière qu'a Paul de parler en ce début du chapitre 7. J'en viens maintenant à ce que vous m'avez écrit. À savoir, etc. Je vous ai dit qu'il y avait un échange régulier de courriers, beaucoup plus sûrement qu'on en a, encore une fois, les traces aujourd'hui, je vous disais ça tout à l'heure. On a un échange régulier de courriers entre Paul et les Corinthiens, Et qu'est-ce qu'il fait, Paul? Eh bien, effectivement, il y a des questions qu'il a posées dans une lettre antérieure, et il répond à ces questions. Un peu plus loin, début du chapitre 8. Pour ce qui est des viandes immolées aux idoles, nous avons tous la science, c'est entendu. Pour ce qui est des viandes immolées aux idoles. Vous voyez, c'est un autre sujet. Bon, vous m'avez posé la question du mariage, vous me posez la question maintenant des viandes immolées aux idoles. Bon, voilà, du tac au tac, je vous réponds. Vous voulez poser des questions, j'y réponds. Donc, si cette lettre se particularise à cause de sa de son importance du corps de la lettre, il ne me semble pas qu'elle se particularise spécialement quant à la dimension littéraire, quant à son genre littéraire, et en particulier quant à sa dimension occasionnelle, opportuniste. Au chapitre 11, verset 2, je vous félicite de ce qu'en toute chose vous souvenez de moi. On sent que, là aussi, Paul fait référence à des choses qui ont été écrites. Bon, voilà. Donc, cette lettre offre toutes les dimensions d'une lettre. Avec sa dimension, en particulier, ce côté échange. Vous savez, la lettre, on dit souvent qu'elle est un substitut à la présence. Là, c'est exactement ce qui se passe. Paul n'est pas là, mais il a entendu dire que, on lui a rapporté que, il a lu que, bon, et c'est comme si finalement il était là. Et voilà ce que je vous dis si j'étais là. Voilà la lettre, pour, la première lettre de Corinthiens dans sa dimension littéraire. Demain, je vous apporterai, si je retrouve, je vous donnerai un peu plus d'informations là-dessus, pour vous expliquer ce que d'autres disent et ce qu'il ne faut pas penser. Et je vais m'arrêter là maintenant, pour cette première aux Corinthiens. Alors demain, je vous apporte ça, puis ensuite on commencera à lire la lettre, proprement dit, le début, etc. Ok? Bon, notre secours est dans le nom du Seigneur.